Je me propose de dégager quelques directions et principes qui nous animent dans le cadre de psychothérapie individuelle, après avoir repéré des particularités de rencontre en psychothérapie quand les personnes sont autistes. Je travaille depuis 22 ans maintenant dans un IME et je rencontre en psychothérapie des personnes autistes de 6 à 20 ans, tout en travaillant avec les équipes et en rencontrant les familles. Certains de ces jeunes ont des maladies associées, ou un handicap moteur, ou des anomalies génétiques, ou des troubles neurologiques, et ce qui n'empêche absolument pas de les accompagner à un niveau relationnel. Le cadre institutionnel a une orientation d'approche complémentaire dans une base de plaisir de rencontre avec les jeunes. Alors nous accompagnons les mouvements psychiques de chaque personne de façon singulière, sans induire ni chercher à contrôler son développement interne. Nous n'avons pas comme objectif une normalisation sociale de comportement. Mais nous pensons que pour accéder à une certaine socialisation, une certaine nécessité de la socialisation, nous pouvons travailler au préalable le sentiment d'exister dans le corps et dans le monde interne. Et on essaye de rencontrer ces jeunes et ces adultes, quand on travaille avec des adultes, dans leurs particularités. Peut-on se sentir en société si on a à peine le sentiment d'exister dans son corps et dans la relation ? Une personne autiste ne peut habiter que partiellement son corps et seulement de temps en temps. D'autres personnes restent enfermées en elles-mêmes, sans ouverture au monde externe. Nous accompagnons la construction d'images du corps afin que la personne se sente habiter chaque partie de son corps, puis l'ensemble de son corps de façon plus stable. Habiter plus facilement son corps rend spontanément plus disponible pour découvrir son environnement et les autres et l'intérêt pour une certaine socialisation. Quand nous accompagnons une personne autiste qui découvre son environnement et les autres, nous veillons à ce que cette ouverture à l'environnement ne fasse disparaître son sentiment d'exister dans son corps. Les personnes autistes, qui sont la plupart du temps hypersensibles, ne s'occupent que d'une chose à la fois et elles s'investissent à fond dans ce qu'elles vivent au détriment d'une vue d'ensemble. Évidemment, il y a des nuances en fonction de chacun, forcément. C'est-à-dire que nous travaillons sur les préalables à la socialisation sans nous focaliser directement sur les habiletés sociales, car nous pensons que le passage par le sentiment d'exister et par l'intérêt pour la relation à l'autre et aux autres, dans une certaine intersubjectivité, sont des bases pour l'accès à la socialisation par la suite, tout en restant concernés par soi-même. Nous sommes trop souvent impatients d'un accès à la socialisation avant même que la personne se sente exister et concernée par elle-même et par une relation à deux. Acquérir la notion de coexistence sans que personne ne soit effacé est un long chemin pour une personne autiste. Les rencontres en psychothérapie participent à cette notion de coexistence. Et avant de coexister dans un plaisir d'être en relation, nous travaillons déjà le sentiment d'existence dans son propre corps. Des étapes de base dans les rencontres en psychothérapie consistent à accéder à la représentation de ses vécus internes qui sont les siens, c'est-à-dire que la personne se sente concernée par ce qu'elle éprouve, qu'elle se sente bien dans l'espace environnant en construisant la notion d'espace en volume qui n'est pas donnée d'emblée, mais qui se construit dans la relation. Les rencontres dans le cadre d'une psychothérapie permettent la construction de la relation entre soi et l'environnement spatial et entre soi et les autres dans une coexistence relationnelle. Nous facilitons l'accès aux expériences relationnelles à deux puis à plusieurs afin qu'elles se fassent spontanément, sans forcing mais avec plaisir. C'est une base pour comprendre peu à peu la nécessité de règles sociales afin que certains comportements individuels soient relativisés en fonction des exigences sociales. Nous n'avons pas pour objectif une application docile de comportements normés socialement adaptés, mais notre objectif est de les découvrir et partager, et de découvrir les personnes que nous rencontrons, et de partager un échange avec leurs expériences et de créer des conditions pour une relance spontanée du développement relationnel dans un certain plaisir partagé afin que la personne se sente concernée par ce qu'elle vit. C'est un des principes auxquels nous tenons. Participer à la construction de l'intersubjectivité, d'une capacité à jouer, d'une spontanéité co-créative dans les rencontres, dans lesquelles chacun apporte sa contribution en tant que sujet. Les moyens que nous utilisons en psychothérapie sont d'abord de nous laisser surprendre par les particularités de la personne que nous rencontrons. Notre méthodologie dans notre travail thérapeutique n'est pas l'application de principes généraux, mais une rencontre singulière avec chacun. Nous tenons compte dans ces rencontres de l'alternance entre des moments d'hypersensibilité et d'hyposensibilité de chaque personne. L'hypersensibilité entraîne souvent des moments de saturation sensorielle ou émotionnelle. L'hypersensibilité entraîne... les personnes autistes, cherchent à s'en soustraire en évitant les sources de saturation, soit par exemple en évitant le lien aux autres, qui est toujours très complexe, soit en se clivant pour s'extraire de vécus internes trop intenses qui peuvent leur faire perdre la conscience de leur sensibilité et les mettre alors dans un état d'hyposensibilité sans rapport au vécu corporel. Les personnes autistes sont souvent envahies d'informations qu'elles n'ont pas le temps de traiter car elles ne savent pas les trier. Se focaliser sur un élément peut faire perdre l'idée du contexte ou de la vue d'ensemble. Le travail de représentation de ce qu'elles vivent sensoriellement n'a pas le temps de se faire hors relation. Il nous faut composer avec leur difficulté à passer des expériences sensorielles à une représentation de ces expériences internes, et l'accès à la représentation des expériences internes se fait normalement dans la relation à l'autre. Quand une personne autiste est entièrement engagée par un vécu interne trop intense ou trop complexe, elle n'a pas le temps ni la disponibilité pour se relier aux autres. C'est au thérapeute de proposer un accompagnement à cette mise en représentation des expériences vécues et de créer les conditions pour que la personne ne soit pas davantage saturée. C'est ainsi que la personne autiste peut s'approprier ses expériences car elles sont mises en représentation, ce qui a souvent un effet apaisant. Quand des expériences sensorielles ou émotionnelles sont représentées par le psychothérapeute, elles se transforment en perception et s'inscrivent dans la mémoire sous forme de traces psychiques mobilisables dans la durée. Autrement, sans ce travail relationnel de représentation, les expériences sont vécues avec une grande intensité, hors relation, souvent sous forme de réflexes toniques et s'effacent de la conscience aussitôt vécues pour être recherchées à nouveau sensoriellement. Cela entraîne une répétitivité qui paraît à l'extérieur pauvre, restreinte et immuable, souvent sous forme de stéréotypie ou d'écolalie à renouveler sans cesse, sans aucune variation apparente. La mémoire reste une simple mémoire sensorielle qui n'est pas représentée, qui ne s'inscrit pas psychiquement dans une mémoire cognitive. Quand les expériences sont partagées et mises en sens, elles deviennent représentées. Cela permet de se passer de la répétition incessante de l'expérience sensorielle de base en la variant, pour l'explorer davantage de façon nouvelle ou en explorant autre chose. Le travail relationnel de psychothérapie est donc une des clés pour apprécier et accéder au plaisir de varier et d'explorer du nouveau. Nous comprenons mieux l'importance de la relation partagée et de sa dimension thérapeutique dans ces rencontres. Un des outils les plus importants du psychothérapeute est sa capacité à se laisser surprendre par les moindres particularités de la personne qu'il rencontre dans un a priori qu'elles ont du sens pour elle. Même si la personne n'en est pas toujours consciente, et le but est de les partager avant même de s'occuper de la valeur socialisée de ses comportements. Le thérapeute se laisse surprendre par les intérêts sensoriels et de mouvement de la personne autiste dans son environnement, ainsi que par ses réflexes toniques. Les réflexes toniques peuvent être par exemple des balancements avant-arrière ou gauche-droite, ou des sautillements ou des tournoiements autour de son axe, ou des agitations des mains autour des yeux, ou des mouvements répétitifs avec des objets autistiques. Et il constitue souvent une recherche subtile de l'équilibre du corps dans l'espace, selon le principe de la moyenne des déséquilibres qui est la verticalité. Le thérapeute tente de les partager par le langage, sans apporter du nouveau dans un premier temps, afin que la personne se sente d'abord reconnue dans ses éprouvés internes. Il en reconnaît la nécessité et cherche d'abord à partager ses expériences sans jugement de valeur, afin de privilégier le partage relationnel avant de se préoccuper des convenances sociales ou des interdits, même s'ils sont nécessaires parfois par la suite. Ces réflexes toniques se font généralement hors relation. Le thérapeute y apporte un contexte relationnel. Nous ne craignons pas que cet accompagnement relationnel renforce l'utilisation des réflexes toniques. Bien au contraire, l'effet de représentation que la relation apporte transforme des expériences sensorielles en traces psychiques, qui feront diminuer spontanément le recours à la sensorialité répétitive. Le thérapeute se laisse surprendre également par les émotions esthétiques de la personne qui est attirée, par exemple, par une belle forme lumineuse ou par une rythmicité qui la rassure et la régule. Dans cette première phase, la personne autiste qui n'a pas encore l'habitude de composer dans la relation ne peut pas intégrer du nouveau qui vient de quelqu'un d'autre. Il convient alors de ne pas la déranger tout en lui faisant goûter la présence d'autrui. Le thérapeute veille à ne pas trop la distraire, car elle est dans une grande concentration, mais il fait en sorte qu'elle se sente l'auteur de ce qu'elle est en train de vivre. Le thérapeute reste attentif et prudent pour découvrir la personne qu'il reçoit au rythme de ses manifestations. Le thérapeute, dans son travail, part de la personne et non pas de lui-même, de ses a priori. C'est plutôt un travail de narrativité que d'interprétation. Ce travail de représentation des vécus internes que propose le thérapeute dans un engagement émotionnel en attention conjointe participe à la construction du sentiment de soi, de l'image du corps, de l'espace et de la relation. Nous essayons de repérer autant ces centres d'intérêt que ces difficultés et ces angoisses et nous sommes attentifs à ce qui est en émergence. La personne autiste n'a pas toujours la marge ni la capacité de manifester l'intérêt de ce que propose le thérapeute dans un premier temps, elle peut en bénéficier sans pour autant pouvoir en manifester son intérêt. L'absence de réaction n'est pas toujours facile à vivre pour l'entourage ni pour le thérapeute. Elle nous fait douter parfois sur la pertinence de nos propositions. Par exemple, nous savons que les réflexes toniques ont une fonction régulatrice pour apaiser des états de saturation sensorielle quand la personne ne peut pas filtrer toutes les informations sensorielles qui lui arrivent de son environnement. Et par exemple, quand une personne autiste est submergée par son environnement qui bouge trop vite ou de façon imprévisible et qu'elle n'arrive pas à évaluer les distances et que des bruits vécus comme effractants, comme un brouhaha, la dérangent, elle peut se mettre à agiter ses mains, par exemple, en battement d'ailes, tout près des yeux. Ce réflexe tonique procure des traces de mouvement des mains qui forment des bords visuels contenants, tout près des yeux, réduisant ainsi l'espace environnant à un espace moins complexe et moins vaste. Cela a un effet apaisant et régulateur. Ces mouvements de mains sont captés par le regard périphérique et apaisent provisoirement, car les flux visuels qui font bord ont la vertu de diminuer les informations sensorielles venant de l'environnement et permettent de se réapproprier son espace corporel qui était dévasté par les états précédents de saturation. Cela participe à l'équilibre du corps dans l'espace, au moins dans cet instant. En effet, tant que les échanges de regards ne sont pas installés spontanément, l'évaluation des distances, qui se construit essentiellement dans les échanges de regards en face, ne peut pas se faire et les changements de focale lors d'un mouvement dans l'espace est compliqué à percevoir. Quand un thérapeute comprend le sens et tient compte de ces mouvements de mains qui peuvent paraître bizarres, il tâche de comprendre ce qui a précédé et reconnaît la nécessité de ce mouvement pour obtenir un apaisement et en parle. Cela permet à la personne concernée de se sentir reconnue dans ses difficultés spatiales et dans ses trouvailles autistiques pour s'apaiser. Elle s'approprie ainsi son expérience et se sent au moins l'auteur de ses mouvements et son sentiment d'exister est alors retrouvé. Elle peut alors s'étonner de la présence du thérapeute qui a contribué à ce qu'elle se sente exister et reconnue dans ses intérêts et elle peut avoir un élan spontané pour partager son expérience jubilatoire. Elle commence à se sentir intéressante pour autrui et trouve un intérêt à la relation. C'est une des bases pour non seulement prendre conscience d'elle-même, mais aussi pour qu'elle s'ouvre à la relation qu'on lui offre. Le thérapeute propose ensuite d'autres façons de s'apaiser, non plus hors relation de façon autistique par réflexe tonique, mais dans le recours à la relation à l'autre, par exemple par une mise en sens de ses expériences, ou par un partage émotionnel, ou dans un étonnement partagé au moindre changement. C'est-à-dire que le thérapeute essaye de proposer que les réflexes toniques autistiques non partageables deviennent partagés, et que l'impact des changements, difficilement assimilables, tout seul, soit atténué et devienne même intéressant. Tant qu'une expérience n'est pas partagée, elle ne s'inscrit pas psychiquement dans la durée, le bénéfice n'est que temporaire, car il est réduit à l'instant de l'expérience. Ce n'est que par le passage relationnel qu'un apaisement peut perdurer, cela aura un effet de diminution des stéréotypies au profit d'une ouverture au nouveau et à la relation. La personne fait ainsi l'expérience de se réguler avec des réflexes toniques tout en étant en relation. Quand la relation a elle-même un effet d'apaisement, les réflexes toniques, les stéréotypies, les comportements répétitifs et restreints, les décharges émotionnelles et motrices qui se passaient de façon autistique hors relation, pour s'apaiser et se réguler dans l'instant, diminuent spontanément. Nous observons que l'apaisement par réflexe tonique hors relation est peu à peu remplacé par l'apaisement relationnel qui est alors préféré. Pour cela, le psychothérapeute est très sensible au vécu interne de la personne autiste. Son propre vécu interne en est bousculé et il y prête attention également. Ce sont des indications précieuses que le thérapeute analyse en lui-même afin d'éprouver plus facilement par identification et par empathie les vécus internes de la personne qui l'accompagne. C'est une partie de ce que nous appelons l'analyse du contre-transfert. Le thérapeute peut ainsi plus facilement co-construire des représentations qu'il peut énoncer à haute voix ou par imitation gestuelle, dans un souci que la personne qui l'accompagne se sente reconnue, s'approprie et se représente son vécu interne. C'est ainsi qu'ils participent à l'élaboration de traces psychiques représentables, c'est-à-dire réutilisables par la suite. Le travail du contre-transfert donne également au thérapeute des hypothèses thérapeutiques qu'il garde en arrière-plan et qui seront travaillées quand l'expression de la personne viendra en faire résonner un point commun. Je vais trop vite. Pardon, excuse-moi. C'est ce que je dis à mes petits patients, ça va trop vite. C'est un travail de co-construction que propose le thérapeute au rythme des séances et au tempo de la personne. C'est le cas de dire. Merci de votre indulgence. Nous avons souvent peu d'éléments langagiers et verbaux de la part des personnes autistes qui n'ont pas toujours accès à l'expression du langage verbal oral. C'est pourquoi l'observation de nos vécus internes dans la rencontre est tellement précieuse. Nous observons également les manifestations corporelles chez la personne, qu'elles soient adressées ou qu'elles se produisent d'une façon autistique sans être adressées, comme dans les stéréotypies, les réflexes toniques répétitifs et restreints, comme par exemple dans les balancements, l'agitation des mains, les tournoiements, les sautillements ou l'utilisation d'objets ou de formes autistiques. Nous avons un a priori que les comportements autistiques et les réflexes toniques que nous observons ont du sens. C'est au thérapeute de le révéler et de l'énoncer sous forme interrogative. La recherche conjointe avec la personne autiste que nous accompagnons, de prise en compte et de mise en sens des vécus internes, facilite les rencontres la plupart du temps. Le thérapeute essaie de ne pas déranger la personne qui l'accompagne, tout en la mettant en valeur avec une certaine délicatesse et un certain engagement dans la relation, et surtout dans un grand respect de sa sensibilité. Nous sommes attentifs à repérer si la personne se sent concernée ou pas, ne serait-ce que par un redressement tonique, même en différé, comme je viens de le faire. Nous avons parfois le sentiment que nous n'avons que très peu de marge pour une rencontre possible au départ. Par la suite, nous sommes surpris de la liberté qui s'est construite et nous constatons des progrès dans l'accès à du nouveau de la part de la personne que nous suivons et même chez nous. Ce travail de représentation lors de ces rencontres porte autant sur les vécus internes que sur l'exploration du nouveau et il n'économise pas la représentation de certaines angoisses corporelles et spatiales, comme par exemple des vertiges dans l'espace, des angoisses de s'effondrer, spécialement tant que le bas du corps n'est pas construit suffisamment dans la conscience de soi. Mais le travail de représentation de ces angoisses se fait à petite dose, car il ne doit pas non plus envahir l'espace des rencontres au détriment de la construction, du sentiment d'exister et du plaisir à rencontrer son environnement et les autres. De même, le travail sur les moments difficiles dans la petite enfance ou parfois même dans l'histoire familiale se fait à petite dose également en lien avec la famille. Les premiers temps de rencontre en psychothérapie se font souvent dans une répétition apparemment immuable qui ne laisse que peu de place à la créativité et aux variations. En effet, l'absence de retour manifesté à ce que nous proposons dans un premier temps décourage parfois et nous nous surprenons à remettre en question le bien fondé du suivi. C'est le temps de l'installation de la relation, le temps d'être toléré puis accepté qui cédera la place au temps d'être attendu et même retrouvé avec plaisir. Quand les réactions tardent à se manifester, ce temps paraît très long et risque de mettre à mal notre enthousiasme de départ, notre capacité de rêverie, notre créativité. Il peut même nous déprimer. C'est important de dire ça à la personne qu'on rencontre. Il peut même nous pousser à des tentations d'installation en faux self ou de stimulation forcée pour vérifier notre impact et notre utilité, mais toujours au détriment de la personne pour qui nous sommes pourtant là. Nous comprenons mieux comment les méthodes de surstimulation ont été tentantes, car elles peuvent paraître rassurantes pour obtenir plus de répondants dans des contrées moins archaïques. Mais ce serait pourtant le ni trop ni pas assez qui serait juste bien, comme on a entendu un petit peu hier matin. Par exemple, je me souviens de Quentin, le premier jeune garçon autiste sans aucun langage verbal que je rencontrais pour la première fois il y a 22 ans, dans son début de thérapie. Dès la première séance, il s'installait par terre, le dos tourné. Il avait auparavant trouvé un chiffon dans le placard, il l'avait mis sur sa tête pour éviter de me regarder. J'aurais pu être déçue qu'il ne profite pas du confort que je souhaitais lui offrir, mais quand je comprenais qu'il se sentait plus tranquille ainsi, j'ai pu davantage m'identifier à lui et les rencontres ont été fructueuses. Je ne renonçais pas à la relation avec lui pour autant et je me surprenais à me féliciter d'avoir mis un chiffon sur sa tête en lui disant qu'il avait trouvé une idée géniale pour ne pas me regarder tout de suite. C'est alors qu'il enleva son chiffon, se retourna en me lançant un regard, tout en prononçant ses premiers mots, « T'es prise en photo ». Il est resté pendant toute la thérapie assis par terre, pendant des années, mais il a fait beaucoup de progrès et il est entré dans le langage, dans une communication adressée. Nous avons eu un grand plaisir à discuter, à son rythme, dans des échanges de plus en plus synchrones. Les temps de rencontre se ritualisent pourtant vite avec des personnes autistes, mais si nous parvenons à exercer notre patience et à garder notre bienveillance thérapeutique pendant ces temps de répétition et d'accrochage à des repères immuables, rassurants et familiers, nous constatons alors qu'un jeu de variations dans les rencontres devient possible. C'est le résultat de notre travail de narrativité, d'imitation, d'étonnement partagé, dans un engagement et d'identification à la personne que nous recevons. Nous évitons une surstimulation pour qu'elle ne soit pas davantage saturée et nous l'accompagnons à faire l'expérience spontanée de la relation quand elle le peut. Notre but est d'abord de créer une relation partagée agréable à partir de ces expériences qui étaient vécues auparavant dans la solitude autistique. Nous avons à composer dans les rencontres avec les personnes autistes avec une élasticité de la temporalité. Si nous voulons que les expériences vécues par la personne que nous accompagnons puissent devenir représentables, notre imitation et nos commentaires narratifs et notre étonnement partagé doivent alors se faire dans une grande synchronie. Ainsi, son expérience corporelle et spatiale est associée avec la représentation que nous lui offrons dans l'instant. Cependant, nous devons accepter que nous n'ayons pas toujours immédiatement un retour sur investissement en synchronie, c'est-à-dire que la personne a souvent des réactions en décalé, le temps de traiter l'information et de se l'approprier avant de pouvoir réagir. Nous devons alors composer avec ces réactions en différé et les traiter comme si elles étaient synchrones. Les réactions corporelles ou langagières deviennent moins en différé et plus synchrones petit à petit. Alors les travaux de Bruno Kepner, qui sont très inspirants, nous rappellent que le traitement des informations sensorielles des personnes autistes est plus lent, ce qui s'explique par la surcharge d'informations à traiter en raison de leur difficulté à filtrer les informations qui leur arrivent et du fait qu'elles sont entièrement engagées dans ce qu'elles font. Nous ne pouvons que faire l'éloge du temps de ralentissement partagé, il ne faut pas non plus généraliser, ça dépend des cas et des moments, afin que le vécu leur paraisse enfin de temps en temps à une vitesse normale et assimilable. Nous avons plus facilement de marge pour faire ces expériences de ralentissement dans un cadre thérapeutique individuel qu'en groupe, mais on peut le faire aussi de temps en temps en groupe. Ainsi, en ralentissant nos déplacements et notre langage verbal, nous observons immédiatement une meilleure compréhension des mouvements, car une poursuite oculaire devient possible, et une meilleure compréhension verbale. Certaines personnes autistes se déplacent ou parlent spontanément au ralenti. Nous pourrions nous rencontrer plus facilement dans des temps de ralentissement partagé, et nous pouvons jouer ensuite sur les modifications de vitesse, comme on le fait avec beaucoup d'enfants en thérapie, en les énonçant à haute voix, « Oh, ça va très très vite », ou « Oh là là, on fait tout doucement ». Et en fait, on joue avec tout ça quand la personne a un certain plaisir à la représentation par le langage verbal, on peut lui raconter tout ça. Dès que Quentin a commencé à entrer dans le langage, il mettait un temps extrêmement long pour capter un mot qui l'intéressait et qui lui parlait. En perdant le contexte de la phrase que j'avais énoncée, il répétait le mot en s'isolant et en mettant sa tête dans ses mains, en mâchonnant ce mot, mais sans savoir quoi en faire. Des jeux sur les rythmicités ont aidé à améliorer sa compréhension, car elles créent des ruptures et des retrouvailles rythmiques régulières qui donnent une sécurité en continu. C'est ainsi qu'en jouant à rythmer le mot, retenu par Quentin, tout en le recontextualisant, il pouvait alors comprendre toute une phrase plus facilement. Il lui arrivait aussi de scander son discours en rythmant lui-même l'énoncé, voilà, comme ça, avec des coupures entre chaque syllabe, ce qui paraissait plus assimilable pour lui. Il pouvait à d'autres moments se concentrer sur le sens de ce qu'il énonçait, mais au détriment de la mélodie de la voix. Il nous arrive en séance également de chanter pour améliorer la compréhension du contenu, ou d'alterner langage articulé et jeu avec des onomatopées qui sont plus facilement assimilables. Nous n'avons pas toujours la possibilité, avec des personnes autistes, d'utiliser pleinement toutes les composantes de la voix en même temps, ou toutes les composantes sensorielles en même temps. Par exemple, Quentin parlait plus facilement et a mieux profité de mes commentaires s'il ne me regardait pas en même temps. Nous facilitons ainsi les conditions de spontanéité des liens, en veillant à ne pas leur imposer trop de complexité dans les rencontres et en ne proposant qu'une chose à la fois pour éviter une surcharge cognitive. Nous jouons également, par exemple, à répondre à un balancement par une rythmicité sonore ou chanter au même rythme. Daniel Stern a appelé ce passage d'une sensorialité à une autre la transmodalité sensorielle. Ce passage d'un sens à un autre facilite les processus de représentation. Une personne autiste a tendance à surinvestir un détail au détriment d'une vue d'ensemble. Et dès qu'une autre exploration même rêve est en émergence, nous nous manifestons par un étonnement partagé ou un commentaire ou une imitation. Et en partageant ces passages d'un endroit à un autre ou d'un détail à un autre, nous participons ainsi à rendre plus flexibles ces passages d'un détail à la vue d'ensemble. Les passages créent alors des liaisons là où il n'y en avait plus, en laissant des traces psychiques réutilisables plus facilement par la suite. Certaines personnes se cantonnent et sont très à l'aise dans une zone de l'espace au détriment de la vue d'ensemble. En surinvestissant malgré elle, une seule des quatre zones d'espace décrites par Alain Berthoz, l'espace corporel qui s'arrête à 10 cm, c'est pour ça qu'on voit des stéréotypies qui s'arrêtent toujours à 10 cm, l'espace de préhension qui s'arrête à la limite des expériences de préhension bras tendus à 70 cm, et l'espace de locomotion de 70 cm au bord de la pièce, comme chez les personnes qui déambulent toute la journée d'un bord à un autre, ou qui longent les murs et les barrières, ou alors l'espace lointain investi par des personnes qui passent une grande partie de leur journée à regarder par la fenêtre. Le moindre intérêt d'exploration de l'espace entre le tout près et le plus loin peut être l'occasion d'un étonnement partagé chez le thérapeute. Cela redonne de la flexibilité entre les différentes zones de l'espace, c'est-à-dire que des liens partagés de mouvement entre différentes zones de l'espace commencent à s'inscrire psychiquement et seront remobilisables par la suite. C'est un travail similaire qu'on fait avec l'image du corps que nous proposons dans les rencontres quand on constate qu'une seule partie du corps est investie au détriment de l'ensemble du corps. Et nous jouons à ne pas oublier une autre partie du corps peu habitée pour revenir ensuite sur la partie du corps plus investie. Ainsi, les parties du corps commencent à se relier ensemble, en tout cas à exister plus souvent par alternance, ce qui donne globalement, en fin de compte, le sentiment d'exister dans l'ensemble du corps, avec plus de flexibilité d'une partie à une autre. La rencontre avec une personne autiste qui n'habite que partiellement son corps donne parfois l'impression que nous nous adressons à une partie du corps de la personne. Parler du point de vue du vécu interne d'une seule partie du corps est souvent plus compréhensible que de s'adresser à l'ensemble de la personne d'une façon externe. Je pense à un jeune homme avec un syndrome d'Asperger que je rencontre chaque semaine et qui venait de perdre des personnes très proches dans sa famille et me parlait du point de vue d'une partie de son corps et non pas de l'ensemble de sa personne quand il me disait « Quand quelqu'un parle de la mort, mes yeux pleurent ». Il était du point de vue de ses yeux, en fait. Je pense par ailleurs à un enfant autiste qui jouait sur un petit piano électronique que je suis actuellement avec grand plaisir, simplement avec sa main droite. Je lui disais combien sa main droite avait l'air drôlement contente de jouer et lui disait peut-être sa main gauche serait très contente aussi de jouer. En différé, il se mit à jouer avec sa main gauche, puis en retirant sa main droite. Il ne pouvait pas faire les deux en même temps. Puis je lui disais que les mains pourraient être très contentes de se rencontrer sur le piano et de jouer ensemble. Je jouais à chanter les notes qu'il jouait, je les variais à partir de ses rythmes, et il m'adressait souvent des regards avec plaisir. Ce réinvestissement du corps, j'ai encore deux minutes. Ce réinvestissement du corps, partie après partie, puis en établissant des liens entre les parties du corps jusqu'à l'ensemble du corps, a pour vertu de libérer la personne d'un auto-maintien réflexe en carapace musculaire ou en agrippement dans des mouvements symétriques sans souplesse dans le corps qui lui prenaient beaucoup d'énergie tant que certaines parties du corps n'étaient pas habitées. Nous en avons un exemple dans le témoignage d'une jeune fille surnommée Babouillet, c'est ça, avec un syndrome d'Asperger d'une trentaine d'années, dans le film « Dernière nouvelle du cosmos » qui vient de sortir sur les écrans, et qui explique à sa mère qu'elle vient de découvrir qu'elle avait des pieds. Elle s'exprime de façon laborieuse à partir de lettres en papier avec lesquelles elle constitue des mots, car elle ne s'exprime pas encore oralement. Dès que les jambes qui portent l'ensemble du corps sont mieux investies, c'est souvent tardif, L'image du corps est plus stable et libère une ouverture nouvelle à l'environnement et aux autres. En conclusion, quand les expériences de flexibilité d'un endroit à un autre, ou d'un détail à un autre, puis d'un détail à la vue d'ensemble se partagent, dans tous les domaines, de la relation, de la sensorialité, de l'espace, dans le corps, dans les pensées, elles s'inscrivent sous forme de traces psychiques qui durent et qui peuvent être réutilisées. Et en fait, ça accroche aussi les différents instants et ça donne la notion de durée, d'habiter dans un temps avec un passé, une anticipation possible. Les personnes autistes sont souvent dans une hypersensibilité à tout leur environnement, dont elles n'arrivent pas à trier les informations tout en s'agrippant à un détail sans flexibilité avec les autres détails. Et si le thérapeute s'engage dans la relation pour comprendre ses particularités, tout en s'ouvrant à une pensée large dans laquelle la personne se trouve, la rencontre se fait d'une façon authentique dans un partage émotionnel possible. Cette pensée large fonctionne par état de résonance et de façon métaphorique, avec peu de différenciation entre des qualités trouvées dans l'environnement humain et dans l'environnement spatial. Si le thérapeute se prête à ses expériences d'une pensée élargie au-delà d'une pensée différenciée limitée au moi corporel, et qu'il s'autorise à jouer avec les métaphores et les changements de registre, la rencontre est beaucoup plus facile. La personne autiste se sent mieux comprise, elle se sent plus concernée, elle participe davantage à l'aventure de l'intersubjectivité. En étant davantage actrice dans ses rencontres, elle construit un meilleur sentiment d'exister dans son corps, dans l'espace, dans la relation et dans une dimension temporelle. Ainsi, les rencontres avec les personnes autistes élargissent notre conscience, nous obligent à une flexibilité mentale et ne cessent de nous surprendre. La transformation progressive des répétitions immuables de départ en créativité partagée dans les rencontres continue de nous émerveiller. Et ces rencontres thérapeutiques que nous leur offrons les éveillent à des rencontres plus en direct, moins métaphoriques, plus différenciées, dans un corps plus habité, et semblent également les émerveiller et leur permettre de goûter spontanément à des rencontres partagées et plus socialisées. Là réside une des spécificités des rencontres psychothérapeutiques et j'espère que cette présentation a pu faire résonance avec vos expériences de rencontres. Thank you.